Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Eh oui, des fois, l'émission de 14h, elle est à 14h04. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va déjà parler de Bruno Latour. Alors, Bruno Latour est considéré par le New York Times comme le philosophe français le plus célèbre du monde. Il fut le premier à percevoir que l'enjeu de la pensée politique résidait tout entier dans la question écologique. Dans Zone Critique, Philippe Squarzoni reprend les textes de Bruno Latour et de ses deux livres consacrés à l'écologie, « Où suis-je ? Où atterrir ?». L'auteur de « Saison brune » reprend ses questionnements et il enrichit ici dans la profondeur philosophique de Bruno Latour. Il soumet la mise en image à de nouvelles exigences, la réinvente, lui apporte une dimension philosophique. Autant de raisons pour que cet entretien, qui sera en direct avec Philippe Squarzoni, pour qu'il nous imprègne de ce territoire philosophique de la bande dessinée, nous serons avec lui autour de 14h15, peut-être un peu plus tard, 14h20. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Ah ouais, des fois, 4 minutes de retard, et pff, c'est du peps en plus. Alors, vous l'avez entendu, Marin est en régie, tout va bien. La programmation musicale, eh bien, nous permettra d'entendre The Who, le groupe de métal mongol. Et puis, il y aura également Kodo. Kodo, qui est un groupe de percussionnistes japonais très enlevés, et nous finirons avec les tambours du Bronx. Alors, l'émission sera aussi consacrée non seulement à Philippe Squarzoni et Zone Critique, mais comme c'est aussi un livre où il y a cette exploration de nouveaux champs narratifs des écritures dessinées, eh bien, il y aura donc d'autres livres qui procèdent de cette même démarche. Et commençons notamment par la réédition d'un roman photo signé Benoît Peters et Marie-Françoise Plissard, intitulé « Fugue ». Ça avait été préalablement écrit au moment, en 1983, par les éditions de Minuit, qui n'est pas seulement un éditeur de littérature et d'essais, c'est aussi un auteur de romans photos, d'œuvres littéraires différentes, et c'est vraiment le cas de Fugue. Alors, Benoît Peters, pour bien le resituer, beaucoup l'associent au scénario de bande dessinée, notamment à celui des Cités Obscures avec Françoise Keuten, qui est donc une exploration d'un monde parallèle. Marie-Françoise Plissard, elle est photographe en freelance depuis 1987, et il y a dans Fugue une façon de non seulement de revisiter le roman photo, mais vraiment de confronter ce médium à une dimension narrative plus hérité de la bande dessinée. Alors Benoît Peters, il faut bien aussi s'en rappeler, est l'auteur de La Bibliothèque de Villers, un roman où, dans l'écriture qui apparaît un peu comme une enquête policière, en fait, il y a une façon d'amener le lecteur à redéfinir ce qu'est la lecture d'un livre, et il y a eu de très nombreux échanges après la publication de ce roman, et on est avec Fugue aussi dans ce type de recherche dans l'écriture qui cette fois est doublée de la photo. Alors, il y a, lorsqu'on feuillette Fugue, eh bien, vraiment la forme bande dessinée, qui est un peu celle que l'on avait dans le roman photo. Alors, roman photo, c'est pas seulement nous deux, c'est pas seulement des histoires de romance où principalement les images contiennent deux personnages au moins, Parfois, ils sont seuls, mais c'est déjà beaucoup plus rare. Donc, là, on remet les choses complètement à plat. Et Benoît Peters va concevoir un récit où il y a trois personnages, il y a une sorte d'enquêteur, de détective qui va explorer et filer. C'est vraiment cette image de la filature que l'on va trouver assez rapidement et qui rappelle d'ailleurs une des images de Tintin et le Temple du Soleil et qui montre comment simplement par l'image là, et là la photo d'un homme qui observe, qui épie, eh bien ce regard d'observateur va être va nous accompagner tout au long de cette histoire. Il y a également contrairement au roman photo habituel, une présence d'un personnage seul dans l'image qui est quasi permanente. Donc il y a bien sûr des scènes où ils vont être plusieurs, mais là, très souvent, on a ce personnage isolé qui va être à l'image. Et donc, très vite, va se composer une dimension narrative différente avec ce type de roman photo. Et on va pouvoir aussi s'imprégner, grâce au découpage, grâce à la mise en scène, de cette dimension de manipulation qui est associée au récit. Alors, Benoît Peters participe également à la réalisation, donc au montage final, à cette mise en page et en double page des photos de Marie-Françoise Plissard. Alors, ils vont faire cette réalisation finale à deux. Donc, ce qui veut dire que chaque valeur de plan, chaque dimension de l'image, chaque organisation est parfaitement pensée comme celui d'une bande dessinée. Il y a un recours au regard intérieur, notamment à cette façon de poser le temps d'une image. Il n'y a pas, il y a des déplacements, bien évidemment, mais il y a vraiment ces moments où le temps s'exprime différemment. Il y a ainsi un rythme aussi qui est créé. Le fonctionnement de ces récitatifs avec un texte qui est tapé à la machine, donc avec vraiment ce type de caractère, est là aussi une façon de rompre avec les habituelles mises en dialogue des romans photos avec ce texte souvent en blanc sur l'image même. C'est véritablement un espace narratif qui est conçu, imaginé par Benoît Peters et Marie-Françoise Plissard. Ils vont faire plusieurs œuvres ensemble et c'est les éditions, les impressions nouvelles qui vont éditer ce livre, cette nouvelle édition de Fugue. Et il y avait déjà eu d'autres romans photos, faut-il les appeler comme ça, d'autres récits en photo qui ont été créés par Benoît Peters et Marie-Françoise Plissard, qui ont déjà été réédités par les impressions nouvelles. Donc, ce livre, qui date d'abord de 2003 et des éditions de Minuit, il fait 128 pages, il est maintenant au prix de 22 euros. Virgule. J'ai eu 25 secondes pour reprendre ma respiration. C'était parfait. Alors, je voudrais suivre avec, là aussi, une autrice coréenne qui s'appelle Silky et qui explore aussi de nouveaux espaces narratifs. Et là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est un format carré, plutôt de petite taille, et qui va être un recueil d'un ensemble de dessins sur les relations humaines qui sont le fruit de dessins faits comme ça, comme un journal intime, dans un carnet où, comme elle dit, elle a griffonné sur un carnet, sur des tickets aussi, ou dans un café, ou à bord d'un bus. Donc il y a un côté très jeté dans l'approche, et puis après il y a cette mise en forme qui est élaborée par Silky pour rendre compte de cette d'une expression, d'une façon de pointer tout ce qui peut composer les relations humaines, mais en essayant de se départir de beaucoup d'attendus, de beaucoup de choses qui ont déjà été traitées, mais vraiment d'être sur un point plus fin, plus subtil, où il y a cette capacité à saisir ce qu'on appelle l'indicible. Alors là, à des moments, cette définition convient parfaitement. Et il y a par exemple un dialogue. Ça va ? Eh bien, pas moi. C'est la même personne qui dit ça, ça s'enchaîne. Et Silky va faire de ce dessin, eh bien, cette marque et cette qualité de création d'un espace narratif qui va lui être propre. Elle a choisi, par exemple, le côté animalier de la représentation. Ce sont des personnages anthropomorphes, de dimension humaine, mais avec une tête animalière. Il y a une façon d'organiser l'image pour qu'on ait une lecture qui ne soit pas simplement dans l'immédiateté, alors qu'il y a une image. Ce dessin, par exemple, où il y a ce dialogue, ça va, et bien pas moi, eh bien, un premier carré qui distingue les deux têtes qui sont très proches, et il y a le personnage qui parle, dont on va voir les yeux, et qui a pris l'autre dans ses bras, et on ne verra pas le regard de ce dernier. Et lorsqu'on lit le dialogue et lorsque les yeux descendent vers le bas de l'image, eh bien, on va découvrir qu'en fait, celui qui parle a planté un couteau dans le dos de l'autre. Et il y a un titre qui est sur l'autre page et qui illustre ce dessin. C'est un effort d'empathie. Donc, l'ensemble des histoires vont être composées de pages avec un titre, une image, parfois deux, des fois il y en aura quatre, même six parfois, et le lien, la narration qui va se faire, la distance qui va se faire entre le titre et le dessin va aussi être soumis à des variations, puisqu'on va avoir des pages où le titre est directement au-dessus de l'image et donc il y a un enchaînement, ou au contraire, c'est double page, où il y a une page pour le titre et l'autre pour le dessin, et qui crée une distance, un temps entre les deux. Et là aussi, Silky va ainsi créer différents rythmes de lecture, différentes perceptions. La dimension de l'animalier est essentielle parce que elle arrive à donner aux animaux une qualité d'expression, un ensemble d'expressions, alors que principalement ce sont des oiseaux avec un bec et il n'y a pas, on n'imagine pas tant de variations possibles, et pourtant le dessin, sa précision, son côté aussi très très vivant, assez incisif dans le trait, eh bien, permet à l'autrice coréenne d'être toujours dans une justesse, dans la nuance, et à chaque fois d'avoir ce lien entre cette mise en image, le dialogue, le titre, tout va faire sens. C'est fait en noir et blanc avec des rehausses de gris, notamment avec des trames très serrées, et on va avoir un cadre ou non, mais à chaque fois, une mise en image qui semble être une variation au millimètre des codes de la bande dessinée, une appropriation de ce qui constitue les écritures dessinées et qu'elle va pouvoir porter avec une qualité étonnante. C'est réjouissant dans son fond, c'est réjouissant dans sa forme, tout simplement parce que Silky montre l'intensité de ce que peut être la bande dessinée. Il suffit que les auteurs se l'approprient avec un maximum d'intensité. Je vais bien ou pas ? De Silky, c'est publié par l'association La Traduction et de Quête Amoruso, et le lettrage de Jean-François Rey. Et ce lettrage est essentiel parce que Jean-François Rey est un lettreur, typographe, qui fait différentes lettres identiques. Par exemple, un S, il va vous proposer 4 ou 5 S, et ça permet à l'auteur de faire varier la forme du lettrage, et on n'a pas du tout l'impression d'un lettrage numérique. Et là, il est de très grande qualité. Il y a 208 pages à ce recueil, il est au prix de 22 euros. Musique. Avec Zone Critique, Philippe Squarzoni s'approprie la pensée de Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences. Plus précisément, ses deux livres, Où suis-je et Où atterrir ? Bruno Latour fut le premier à percevoir que l'enjeu de la pensée politique résidait tout entier dans la question écologique. L'auteur-dessinateur de Saison Brune poursuit ses questionnements sur comment se positionner dans nos sociétés contemporaines, trouver des réponses, et il choisit de les mettre en image. Avec la même exigence, avec une écriture et un dessin riches de chacun des traits, cadrages, mise en scène des livres précédents. Il interroge le médium des écritures dessinées, le réinvente pour porter désormais sa dimension philosophique. Nous sommes en direct avec Philippe Squarzoni pour qu'il nous immerge, qu'il nous imprègne de ce qui fait Zone Critique. Bonjour Philippe Squarzoni.
Bonjour.
Alors, comment s'est fait cette rencontre avec Bruno Latour, qui a eu connaissance de votre projet, puisque il a démarré avant son décès en 2022. Et il disait d'ailleurs que c'était l'œuvre dans l'œuvre. Alors comment ça s'est passé ?
Comment ça s'est passé ? En fait, au départ, c'est une proposition d'auteur. Donc les éditions Delcourt et les éditions de la Découverte s'étaient rapprochées pour créer une collection dans laquelle des auteurs de bande dessinée et de chez Delcourt collaboreraient avec des auteurs de la Découverte, soit pour adapter un livre existant à la Découverte, soit pour en créer un nouveau à partir d'un dialogue ou d'une enquête en cours, d'une recherche en cours d'un auteur de la Découverte.
Alors juste un point, Philippe Squarzoni, on a un petit problème de réception. Le son est un peu voilà. Il y a peut-être une question de réseau. Est-ce que vous pouvez vous placer dans un endroit où le réseau est peut-être un poil plus fort ?
On entendait mieux là.
Ouais, ça c'était mieux. Si ça continue,
là, c'est mieux.
Ouais, c'est mieux. C'est bien mieux. Allez, excusez-moi.
Si, c'est normal. Et donc, je disais, il y avait cette idée d'une collection où on rapprocherait des auteurs de la Découverte et de Delcourt. Et Bruno Latour était publié avec personne. Quand ils ont pensé qu'ils pourraient éventuellement bosser avec Bruno Latour, ils m'ont contacté. Que Bruno Latour avait lu Saison Brune, ce gros ouvrage de bande dessinée documentaire que j'ai fait il y a une dizaine d'années sur le réchauffement climatique. Il l'avait beaucoup apprécié, et Bruno Latour, c'était quelqu'un qui aimait contacter des artistes, des gens du spectacle vivant, des écrivains, des critiques de cinéma, voire des architectes. Il était persuadé qu'on pouvait essayer de métaboliser, de représenter autrement des grands concepts comme ceux de Gaïa, de l'Anthropocène ou de la Zone Critique, en se rapprochant d'auteurs, d'artistes. C'était une pensée qui se voulait un peu en mouvement à ce niveau-là, et il m'avait contacté, il m'avait invité à des tables rondes qu'il organisait sur le thème de l'Anthropocène ou à participer à des conférences avec lui. Donc on se connaissait un peu, on s'appréciait. Je crois qu'il aimait l'approche que j'avais de la bande dessinée. Et donc les éditions Delcourt m'ont demandé si j'avais envie de collaborer avec lui sur un ouvrage. Donc moi j'ai demandé à la Découverte de m'envoyer les derniers bouquins de Bruno Latour, et du coup j'ai eu la chance de lire coup sur coup Où suis-je et Où atterrir, qui sont deux ouvrages qu'il avait publiés à 5 ans de distance, mais qui sont assez courts, pas très compliqués, parce qu'il y a des ouvrages de Bruno Latour qui sont quand même plus difficiles d'accès, et qui, en les lisant comme ça coup sur coup, m'ont semblé se répondre, avoir des questionnements parallèles, une approche formelle et thématique, à la fois qui formellement assez différent, mais thématiquement assez proche, comme si l'un était le fantôme de l'autre et qui se répondait un peu d'une certaine façon. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les adapter les deux en les faisant dialoguer en un seul livre de bande dessinée, avec des extraits de Où suis-je, puis de Où atterrir, puis de Où suis-je, puis de Où atterrir, comme ça, et en les superposant. Et l'idée a beaucoup plu à Bruno Latour. On s'est rencontrés, il m'a dit, mais t'as raison, en fait, c'est le même livre écrit différemment, mais c'est le même bouquin. Donc on était parti sur cette idée-là. Mais Bruno Latour était déjà très malade, et très rapidement son état de santé a empiré. Donc j'ai continué, poursuivi le livre tout seul. C'était plus le livre qu'on aurait envisagé ou qu'on aurait fait si on avait collaboré ensemble. C'était un autre livre qu'il fallait que je mène tout seul.
Philippe Squarzoni, il y a à mettre en image une pensée philosophique, une difficulté première. C'est... Alors comment c'est fait votre travail avec le texte? Comment c'est fait votre découpage? Parce que en fait, il y a un ensemble de récitatifs qui nous permettent de cheminer avec la pensée philosophique de Bruno Latour.
Oui, moi c'est ce qui m'intéressait d'une certaine façon. J'avais déjà adapté un livre de David Simon, Homicide, en essayant d'être très fidèle au texte, dans l'image. Et là, je voulais amener autre chose. Je voulais que l'image soit comme une retranscription, une traduction, voire une sorte de performance autour du performance, toute proportion gardée, hein, toute modestie comprise, mais autour du texte de Bruno Latour. Et j'ai travaillé en étant donc en gardant son texte, en me refusant des facilités qui auraient été des facilités ou des béquilles qui auraient été de le mettre en dialogue ou d'inventer des personnages pour dialoguer sur les concepts de Latour. C'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais proposer mon interprétation graphique de son travail. Faire dialoguer les deux textes n'était pas très compliqué parce que finalement, l'intuition qu'on avait au départ s'est avérée assez juste. C'était deux textes qui se répondaient assez facilement. Et puis, comme je le disais, ils sont formellement assez différents. Où suis-je ? J'ai écrit sous la forme du conte philosophique, un peu avec un personnage. Où atterrir est plus écrit sous la forme d'un essai politique. Et ça me permettait d'alterner deux registres de bande dessinée dans la première partie de mon livre, qui ensuite vont se superposer, s'entremêler et se fondre en un seul. Et c'était ça qui était excitant aussi, c'était l'idée de se dire, bon bah comment je fais une bande dessinée sans dialogue, comment je fais une bande dessinée en mélangeant deux registres de dessin, puis en les faisant se superposer. Tout ça, c'était des questions nouvelles, il fallait inventer, pour moi en tout cas, des approches nouvelles. Et c'est à partir de là que ça devient un peu intéressant, en fait.
Quelle relecture impose ce principe du découpage d'un texte philosophique, Philippe Squarzoni? Est-ce qu'il y a eu lecture, relecture? Comment avez-vous finalisé finalement cet écrit?
Bah, c'est assez simple. Moi, j'ai gardé ce qui m'intéressait, en fait. Je pense que si on avait travaillé ensemble avec Bruno Latour, le résultat aurait peut-être été assez différent. C'est quelqu'un dont j'appréciais la pensée, que je trouve féconde. Je trouve qu'elle elle permet de faire un pas de côté, de se poser des questions autrement. Mais je suis pas forcément nécessairement complètement raccord avec tout ce qu'il dit à certains endroits où je me disais en le lisant au début, quand Bruno Latour était encore vivant, ah ben tiens là, il faudra que j'invente un processus formel pour que je puisse lui poser une question et qu'il puisse y répondre, parce que je sais pas si je suis d'accord ou je sais pas trop ce qu'il veut dire. Donc le fait de pas être... je voulais pas faire une bande dessinée qui soit la voix de 100 mètres. Comme on a pu le voir des fois en bande dessinée documentaire. Et ça m'intéressait justement de pas être à 100% complètement d'accord avec le texte. Bon, ensuite ce projet premier, il a fallu l'abandonner parce que Bruno Latour a pas pu continuer à travailler avec moi, mais je me suis dit, bah, ce qu'il faut garder en tête, c'est cette idée que tu vas nécessairement faire des coupes. Et tu vas couper ce qui t'intéresse le moins. Un autre auteur aurait peut-être gardé des choses plus scientifiques ou des choses moins politiques. Moi, je me suis approprié ce qui me parlait le plus, donc les questions écologiques, bien sûr, qui sont au cœur de son ouvrage, mais leur prolongement politique et le questionnement politique que ça pose. Et j'avais comme un peu comme guide dans cette idée que maintenant je travaillais seul et qu'il allait falloir que je m'approprie le livre d'un auteur qui n'était plus là pour se pencher sur mon épaule. Une discussion qu'on a eue au tout début, où dans Où suis-je, Bruno Latour utilise un personnage qui est une sorte d'avatar de Grégoire Samsa, de la métamorphose. Et moi, je me suis dit très vite, mais ça, je peux pas le garder, en fait, parce que Bruno Latour dit dans son texte, comme Grégoire Samsa, dans la métamorphose, etc. Mais en dessin, d'une certaine façon, le dessin vaut comparaison, vaut métaphore. On peut pas en avoir une deuxième dans le texte, ce serait bizarre, ce serait redondant. Et puis, j'étais pas fan de la métamorphose. Donc au tout début, quand on s'est rencontrés, je dis, écoute, il y a une première chose que je sais déjà, c'est que je ne vais pas la garder, cette comparaison avec Kafka. Et il a souri, j'ai vu son œil briller, et j'ai vu qu'il était content, en fait, d'être challengé, comme on dit aujourd'hui, sur ce point-là. Et il m'a dit, non, mais tu as tout à fait raison, ça ne fonctionnerait pas en bande dessinée. Moi-même, je l'ai utilisé que comme une béquille littéraire, et puis Kafka n'est pas un très bon auteur, donc oublions cette comparaison. Et quand j'ai dû travailler tout seul et m'approprier le texte de Bruno Latour et enlever les passages qui m'intéressaient le moins, ou avec lesquels j'étais le moins d'accord, c'est ce regard qui brillait de malice et le plaisir qu'il avait eu à être un peu, pas remis en question, mais pas suivi mot à mot, qui m'accompagnait. Donc je savais que c'était aussi quelqu'un qui aimait être comme ça, remis un peu en question, questionné. Donc je me suis approprié son texte d'une façon sans scrupule, en fait.
Alors, il y a donc à la place du personnage de Kafka, il y a donc une femme qui est une sorte de témoin anonyme et intime de tout ce qui se passe autour d'elle, mais qui est aussi, avec le confinement, avec le masque, une métamorphose d'elle-même.
Oui, alors à partir du moment où j'abandonnais le personnage de Kafka, j'avais un personnage qui devenait une sorte d'universel de l'homme. Et par conviction féministe, je me suis dit pourquoi cet universel de l'homme serait un homme, pourquoi ce ne serait pas une femme. Donc j'en ai fait une femme, et une femme avec des formes, pas une femme filiforme comme on en voit sur les magazines, une vraie femme. Et effectivement, c'est une silhouette, elle a un masque et... Elle sert de point de départ à un questionnement qui est le même que celui que développe Bruno Latour dans son texte. C'est, il part du confinement, donc suis-je, pour développer cette pensée que le confinement nous permet de réaliser que nous sommes effectivement les terrestres, les êtres humains, confinés dans cette toute petite zone critique de quelques kilomètres de haut, où la vie est rendue possible par l'interaction des vivants, zone critique qui est elle-même dans un état critique. Donc cette expérience du confinement lui sert à poser un peu un questionnement sur notre représentation du monde, cette idée que on est confiné dans des limites très très strictes sur cette petite planète, mais qu'en même temps on est confiné dans une espèce d'appartenance collective et d'interdépendance avec tous les autres vivants, comme le confinement a pu nous permettre de nous rendre compte qu'on était dépendant de tous ces métiers-là qu'on oublie et qu'on a oublié depuis. Et ça lui sert à développer cette question de ben, où suis-je dans le monde, comment suis-je dans le monde, que la place de l'homme n'est pas centrale, mais qu'elle est dépendante de tout un ensemble de vivants qui est, et de leur interaction et de leur superposition.
Philippe Squarzoni, il y a un argumentaire qui se déroule, qui prend une place, qui s'amplifie et qui vraiment nous amène à un autre regard sur notre monde, sur la Terre, sur le terrestre. Donc c'est par exemple le climat qui est en lien direct, qui est relié directement aux inégalités et aux injustices, à cette lutte des classes qui est à redéfinir complètement avec la dimension géopolitique. Et est-ce que vous avez eu assez de pages? Est-ce que il y a une façon d'une lecture globale de tout ce développement argumentaire? Comment s'est passée cette écriture pour vraiment être dans ce déroulé aussi précis qui nous amène vraiment très très loin?
Oui, j'ai eu à cette page, j'ai eu un moment la tentation de me dire, ah tiens, et si j'allais chercher dans les autres livres de Bruno Latour un peu plus d'idées sur Gaïa, parce que c'est pas trop traité dans les deux livres que j'adaptais, un peu plus d'idées sur l'anthropocène, et si je développais un peu plus la pensée de Bruno Latour. Et très vite, je me suis rendu compte que non, ce serait une erreur. On était bien d'accord, Bruno Latour et moi, et c'est une des choses sur lesquelles on s'est rapproché tout de suite, et sur lesquelles il me faisait confiance parce qu'il savait mon approche de la bande dessinée documentaire. C'est qu'il ne s'agissait pas de faire un résumé de Bruno Latour en bande dessinée, une explication de sa pensée ou une introduction à sa pensée. Il s'agissait de faire, comme vous l'avez dit au début de l'interview, une œuvre sur une œuvre. Moi, je trouve que assez souvent, et c'est de plus en plus la tendance maintenant, malheureusement, la bande dessinée documentaire sert de... d'alibi pour les lecteurs qui vont être sur un mode j'aurais pas lu un livre là-dessus, mais une bande dessinée, oui. Et la bande dessinée documentaire va se contenter d'être un livre plus facile, avec formellement des répétitions de tics, peu d'élaboration. Et ça me peine parce que c'était pas ça il y a quelques années, ça le devient de plus en plus. C'est quelque chose que j'apprécie peu. Qui ne semble pas mettre en valeur la bande dessinée, et Bruno Latour détestait ce type de bande dessinée, donc on était bien d'accord qu'il fallait pas faire ça. Et donc quand je me suis dit si j'allais chercher ailleurs du Bruno Latour, je me suis rendu compte que c'était pas le projet de départ et que je risquais de faire du Bruno Latour en bande dessinée. C'était pas ça le truc, c'était juste de rester sur ces deux livres, et ces deux livres étaient déjà suffisamment riches. Ensuite, il y a la question en bande dessinée de comment vous faites pour développer autre chose qu'un récit, développer un discours. Et souvent, dans mes précédents livres, j'avais fait un peu un mélange des deux avec un récit à la première personne qui sert d'introduction à des moments de discours. Là, on était dans beaucoup plus, en termes de pourcentage, beaucoup plus de discours. Mais sa pensée était tellement riche et elle faisait naître en moi suffisamment d'images, et on a tellement d'images aussi, très violentes, je trouve, de ces manifestations maintenant très concrètes, très réelles du changement climatique, les giga-incendies, les inondations, les sécheresses, que c'était pas très compliqué de faire percuter son texte avec des images assez fortes, en fait. Et son texte est lui-même parfois, à certains moments, très bien écrit, assez poétique, assez fulgurant, et la percussion des deux, la superposition des deux, me semblait pouvoir être féconde.
Philippe Scarzoni, je vous propose une autre pause musicale. Et cette fois, c'est avec Kodo, un groupe de percussionnistes japonais. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Philippe Squarzoni pour son livre Zone critique, qui est avec des textes de Bruno Latour. Philippe Squarzoni, dans les deux registres de bande dessinée convoqués, il y en a un plus habituel qui est une page avec un espace dans lequel se situe les cases, donc on a un rectangle qui s'inscrit, des espaces entre les cases, des récitatifs qui se superposent sur les images, et puis il y a cette partie d'analyse de nos sociétés contemporaines où là on a vraiment une image de fond et des cases qui vont être placées de façon organisée bien sûr, mais espacées avec des récitatifs qui vont se retrouver en dehors de ces images, mais qui vont les accompagner, qui vont guider le lecteur. Comment s'est mis en place ces formes narratives, notamment la première avec un côté assez abstrait, marqué, une stylisation graphique très forte, et puis ces grandes images qui forment aussi une suite narrative essentielle.
Je voulais qu'il y ait deux mises en scène très différentes pour qu'on puisse identifier nettement le passage d'un extrait de « Où suis-je » à un extrait de « Où atterrir », puis à un extrait de « Où suis-je ». Je ne voulais pas que le style de dessin change trop entre les deux moments, parce que je voulais qu'il y ait une sorte d'unité pour dire que quand même il y a un auteur à la base, c'est Bruno Latour. Donc c'est au niveau de la mise en page surtout que j'ai essayé que ça se différencie, avec d'un côté, comme vous l'avez dit, des cases dans une planche assez classique qui me semblait pouvoir coller au récit de ce pseudo-personnage qu'on accompagne, qui va finir par disparaître et dont on va se rendre compte qu'il est moins un personnage qu'une carte de nos attachements. Et puis pour l'autre, ces grandes doubles pages où se superposent des plus petites cases. Le mot superposition, c'était vraiment le cœur de ma grammaire graphique pour ce livre. C'est un mot qui revient très souvent dans les deux livres de Bruno Latour, la superposition des formes de vie et leurs interactions qui vont à la fois permettre la vie, modeler cette zone critique, la rendre favorable à la vie. Et puis toutes ces interactions sont finalement Gaïa, quoi, l'action du vivant. Et cette superposition, je voulais qu'on la voie graphiquement dans le livre, donc en superposant des cases les unes sur les autres, de différentes manières d'ailleurs. Des fois, par transparence, on voit dans la petite case un extrait de la grande case, ce genre de choses. Et en superposant aussi des matières, parce que Bruno Latour interroge beaucoup la matérialité du monde dans lequel on vit, qui est plus une matérialité qu'on va exploiter, qui est extérieure à l'homme, mais qui est une matérialité faite de cette superposition d'instances, de couches, d'actions, d'artificiers du vivant. Et je voulais que dans la matière même du dessin, il y ait une superposition de plein de couches, de différentes choses, pour créer une espèce d'étrangeté qui nous amène à regarder le monde qu'on a l'habitude de voir un peu différemment. Donc comme je travaille sur le numérique, je superposais avec des effets de transparence beaucoup de cases. Quand je dessinais un ciel, généralement j'en dessinais deux et je les superposais. Quand je dessine un trottoir, je vais superposer une image des images de termites par transparence ou de sécheresse qu'on a pu voir sur des pages précédentes, des projections, des empreintes digitales, de la trame, plein de choses pour que la matérialité même de ce qui est représenté dans le livre soit très légèrement étrange, très légèrement différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour accompagner cet effet de déplacement du regard qui est celui que cherche peut-être Bruno Latour. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Et au milieu du livre, les deux moments des extraits de livres de Bruno Latour commencent à s'entremêler, à se superposer, et finalement ces mises en page se superposent et on ne sait plus, ça continue à être dans le texte des extraits de « Où suis-je », des extraits de « Où atterrir », mais on ne peut plus trop savoir où on en est parce qu'ils se sont complètement intermêlés les uns aux autres.
Il y a dans Zone Critique, Philippe Squarzoni, la couleur qui est convoquée de façon très intense. Qu'est-ce qu'il vous a permis ?
Ah ben, je me suis dit qu'il fallait, envoyer quelque chose, quoi, graphiquement. Qu'il ne s'agissait pas, comme j'ai souvent l'habitude de faire, d'avoir un dessin qui sous-joue un petit peu, qui est un peu en retrait et qui laisse toute la place au texte. Là, j'avais l'impression qu'il fallait que graphiquement, je propose une vocabulaire graphique qui serve en gros à faire correspondre à certaines idées de Bruno Latour, certaines réponses graphiques. Ça, c'est la première partie du livre. Dans la deuxième partie du livre, une fois que ça s'est acquis, on joue avec un rapport texte-image qui est beaucoup plus dansant, beaucoup très différent, en fait. Et pour ça, il fallait un dessin qui soit, je ne sais pas d'autres mots, un peu puissant. Et donc, il fallait convoquer tout ce que je pouvais pour avoir une puissance dans le dessin. Et la couleur en faisait partie. Et puis, je pense aussi que j'avais beaucoup fait du noir et blanc et que j'avais besoin de changer un peu.
Il y a donc dans votre livre une façon, par exemple, de battre en brèche l'économie qui a organisé et mené le monde. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de rompre pour vous, Philippe Squarzoni, avec une sorte d'économie narrative de la bande dessinée qui sur laquelle repose une industrie de la bande dessinée aujourd'hui?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je mets assez haut la bande dessinée et je mets assez haut la bande dessinée documentaire. Pour moi, c'est pas un sous-genre de la bande dessinée et c'est certainement pas la bande dessinée documentaire qu'on pouvait avoir quand on était gamin, genre l'histoire de France en bande dessinée. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire et qui nous pousse à inventer des formes en bande dessinée. Parce que il va falloir entremêler, comme je disais tout à l'heure, du récit, du discours. C'est hyper excitant à faire parce que ça nous pousse à trouver des nouvelles formes, en fait. Si on se contente pas de répéter paresseusement des formules avec un texte sérieux en dessous et un dessin avec une blague en dessous, un texte sérieux au-dessus et un dessin avec une blague en dessous. Et moi je trouve ça excitant. Alors c'est pas pour remettre en cause ce qui se fait, c'est parce que moi ça m'intéresse, en fait. Dans la bande dessinée documentaire, c'est pas ce que la bande dessinée apporte au documentaire qui intéresse, c'est ce que le documentaire apporte à la bande dessinée, ce que ça nous pousse à devoir inventer. Et puis j'ai pas envie d'en péter ce que j'ai déjà fait dans mes précédents livres, ce serait mortellement ennuyeux, et pour moi et pour le lecteur. Donc c'est excitant pour moi d'avoir un nouveau projet, c'est excitant de me dire putain, ça je sais pas du tout comment je vais le faire. C'est excitant pour moi de me dire je vais faire 170 pages sans une seule ligne de dialogue, est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr d'avoir réussi, mais au moins j'ai cherché.
Il y a une supervision de l'édition qui a été faite par Philippe Pignard, qui avait publié un livre d'entretien avec Bruno Latour et une autre philosophe. Comment s'est passée cette supervision? Il était là pour quoi, Philippe Pignard?
Alors je pense qu'au départ, il était là pour faire un peu le relais entre la découverte et puis aussi les ayants droit, la femme et les enfants de Bruno Latour qui ont hérité d'une certaine façon de ce projet et qui ne savaient pas trop quoi en faire, parce qu'il était en tout frais quand Bruno Latour est décédé, et qui se sont posé la question un peu de mais qu'est-ce qu'il va faire Philippe Squarzoni? Il va mettre les textes de mon mari dans des bulles de dialogue avec des gens qui discutent. Et donc ils ont demandé à Philippe Pignard de voir un peu avec moi comment ça allait se faire. Et moi, j'ai expliqué comment Bruno Latour et moi on voyait les choses et il était parfaitement content. Il trouvait que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et donc, sa supervision, elle a été très, très souple, en fait. Je lui envoyais des planches de temps en temps, il me disait c'est très bien. Voilà, quoi. Je pense que tout le monde se sentait plus en sécurité de savoir que si on y arrêtait dans la boucle, mais à aucun moment on m'a demandé de changer telle ou telle ou telle chose, quoi. Quand je lui dis que j'allais transformer le personnage de Houssu, c'est parfait. Bon, on a adoré une des dernières choses qui l'a excité intellectuellement, c'est la question des communismes. Donc oui, complètement. Donc sur cette question de ça, il y a l'œuvre de Bruno Latour et de surtout pas faire un pensum qui soit Bruno Latour en bande dessinée. Tout le monde sont des terracores, en fait.
Merci beaucoup, Philippe Squarzoni, pour ces paroles, ces belles paroles. Je rappelle donc Zone Critique avec les texte de Bruno Latour sur Où suis-je, où j'atterris, où atterris-je. Et c'est donc une coédition entre les éditions Delcourt et les éditions de La Découverte. Les 172 pages, je crois, du livre, je n'ai pas le prix. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est un documentaire dessiné dont vous n'avez rien lu d'équivalent. Merci, merci, à très bientôt, Philippe Squarzoni.
Bonne fin de journée.
Merci, au revoir. Au revoir. On écoute, on écourte un peu les tambours du Bronx, c'est dommage. C'est un très beau, très belle énergie. Je voudrais terminer cette émission avec deux auteurs qui ont aussi exploré, ouvert l'écriture dessinée. Il s'agit de Laurent Galandon et de Paolo Castaldi avec Le dernier costume n'a pas de poche. C'est publié par les éditions Futuropolis. Il y a en quatrième de couverture un dialogue. Je ne comprends pas. Tu as une famille, des amis, un travail. Pourtant, tu dépenses ton argent et ton temps pour des gens que tu ne connais pas, pour ce cimetière des inconnus. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que le dernier costume n'a pas de poche, mon jeune ami. Ce sont des propos de Shams Din. Et il y a une page qui le présente, nous sommes page 41. Shams Din est bénévole au Croissant Rouge depuis des années. Il a créé le cimetière des inconnus pour que nos frères, anonymes, morts en Méditerranée, aient une sépulture. Il y a enterré plus de 400 corps aujourd'hui. Il n'y a plus de place. Nous ouvrons ce livre avec une image de la mer et dès qu'on tourne, eh bien on va avoir ce bateau qui va découvrir des migrants qui ont péri en Méditerranée. Pendant le trajet vers l'Europe. Il y a un enfant qui surgit, Abdoulaye, des eaux comme miraculé. Et Laurent Galandon va écrire une histoire sur ce qu'est la migration, mais du point de vue tunisien. Là, nous sommes à Tunis, et on va découvrir ce qu'est la vie pour un ensemble de personnages. C'est vraiment un récit choral qui va nous permettre de nous immerger, de nous immiscer dans ce quotidien d'un ensemble d'hommes, de femmes, d'enfants, d'ados, d'anciens. Et comment, eh bien, ce rêve de l'immigration, ce rêve de la traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Italie est très prégnant dans toute la société. Il y a des répliques qui sont lumineuses, qui nous permettent de sortir de nos connaissances un peu habituelles et qui, au contraire, vont nous amener dans une autre intimité. Il y a un dialogue entre justement Shamsdine et son épouse qui va, elle, évoquer mais comment elle ressent cet appel et ce désir de migration. Ses filles sont déjà parties elle veut partir, elle n'arrive pas à obtenir de visa et son mari essaye de la tempérer. Dieu les a protégées, parfois il décide autrement et tu oublies que le bateau en bois où se trouvait Iliès était en perdition sur le point de couler. S'il n'y avait pas été et secouru dans les eaux italiennes, tu le pleurerais aujourd'hui comme trop de mères qui ont perdu un enfant. Si vous devez partir, ce sera légalement comme l'ont fait nos filles. Quand ? Dit Moufida. Inch'Allah, j'irai à la banque pour contracter un autre prêt, tu pourras déposer une nouvelle demande de visa. Quand il s'agit d'aller au Parlement européen, à Strasbourg ou à Genève, pour défendre la cause des migrants, tu n'hésites pas, dit-elle. Tout ça pourquoi ? Rien ou presque. Les Africains continuent de mourir en Méditerranée, mais quand il s'agit d'aider ta propre famille, tu n'es plus là. Il y a véritablement dans ce roman graphique qui est tiré d'événements, de personnages réels. Le personnage de Shamsdine existe vraiment. Laurent Galandon a découvert une vidéo qui présentait cet homme qui enterre les migrants qui n'ont même pas dépassé la moitié de la Méditerranée. Et qui leur offre une dernière sépulture. Il est allé le rencontrer, il a passé 15 jours avec lui. Et le récit de ce dernier costume n'a pas de poche, est complètement imprégné de cette dimension de Shamsdine. Une des grandes forces de l'écriture de ce roman graphique, c'est la façon dont Laurent Galandon va aussi être imprégné dans l'écriture des dialogues. C'est beaucoup, beaucoup de dialogues. Il a donc transformé ce qui aurait pu être des récitatifs descriptifs en dialogues entre différents personnages, d'où cette dimension chorale du récit. Et il a vraiment articulé avec une grande précision ce qui va être contenu dans les dialogues et les images. Paolo Castaldi va facilement s'imprégner de cette conscience, de cette relation texte-image qu'a Laurent Galandon, qui est un scénariste de talent chevronné. Et il a eu donc une mise en image de personnages on va croiser tout au long de ce récit, comme cet enfant Abdoulaye qui est à la recherche de sa mère, qui est partie un peu plus tôt avant lui et qui n'a aucune nouvelle, qui la recherche dans cette ville de Zarzis en Tunisie et qui se raccroche à n'importe quel événement tout en ayant des distances, des craintes d'approcher des adultes à cause des violences qu'il a pu subir. Il y a des moments où le passé est convoqué, mais à chaque fois, Laurent Galandon lui donne une place juste, sans excès, pour permettre à la profondeur de chacun des personnages d'être un peu plus intense. Mais c'est vraiment sur ce moment où Shamsdine va recueillir cet enfant, où il va croiser différentes autres personnes marquées par cette volonté de migrer, que le récit va se déployer, va avancer. Il y a simplement dans ce ressort de la recherche de sa mère disparue, une intensité suffisante pour que le récit ne s'encombre pas d'autres éléments. Il y a très peu de choses sur les traversées elles-mêmes, sur la façon de passer en Italie. Mais il y a par contre, à plusieurs reprises, mais à de très nombreuses reprises, ces moments qui sont les conséquences de cette migration. Tous les bateaux qui ont péri, les corps qui ont été retrouvés, comment c'est le cimetière des Inconnus, puis d'un autre cimetière créé par Shamsdine, au jardin d'Afrique, où il y a toujours cette volonté de donner une sépulture. Dans la mise en image, Pablo Castaldi va être d'une grande efficacité, d'une grande intelligence même. Il y a un travail à l'aquarelle avec ce jus qui est très léger, très qui donne beaucoup de nuances à la mise en couleur, une façon de s'approcher, de s'approprier à la fois les décors, les lieux, les personnages, les expressions, de donner une force au regard avec un noir pour les yeux plus appuyé. Et puis il y a aussi un point qui change tout, c'est que avec l'aquarelle, eh bien chaque couleur de peau est en fait un ensemble de nuances. Ce n'est pas une teinte uniforme, monochrome, c'est à chaque fois une diversité qui finalement rapproche les noirs subsahariens et les maghrébins de Tunisie. On a l'impression qu'il y a vraiment une beaucoup plus grande proximité entre les deux, comme si grâce à cette multiplicité de tons sur les visages, eh bien notre regard sur l'altérité dans tous ceux qui sont marqués et imprégnés par ce que représentent les migrations aujourd'hui, eh bien il y a ainsi une façon d'ouvrir l'espace et d'ouvrir la réflexion. C'est un livre étonnant, qui a une dimension fantastique et poétique. Fantastique parce qu'Abdoulaye affirme avoir été sauvé par des tortues géantes, et puis aussi poétique parce que il y a un personnage qui est une sorte de poète qui va récupérer tous les objets qui sont issus de ces migrations interrompues, raté avec donc des objets qui échouent sur les plages et que cet homme va récupérer. Moshem à chaque fois va avoir un jet artistique pour redonner une dimension, une humanité et une intensité à ce que représentent ces migrations aujourd'hui. C'est un récit remarquable sur ce que l'Europe ne veut pas voir, et Laurent Galandon, par ce décalage en nous amenant en Tunisie et avec les images de Paolo Castaldi, il y a une fiction qui est tout à fait remarquable. C'est simplement un sommet. Le dernier costume n'a pas de poche, de Laurent Galandon et de Paolo Castaldi. C'est publié par les éditions Futuropolis et les 160 pages de ce livre sont au prix de 22 euros et le livre a été imprimé en France. Merci Marin pour cette technique. Alors, désolé pour les quelques difficultés sonores, mais là on pouvait rien y faire. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.